malade-là n'est pas la cause des problèmes, il en est le symptôme. La maladie est profondément enracinée, elle porte un nom, c'est le présidentialisme qui rend fou la monarchie présidentielle.
Vous refusez de répondre à la commission d'enquête alors que votre salarié est mis en cause, M. Kras, avec M. Benalla, qui est le collaborateur le plus proche du président de la République. Nous sommes où ?
L'Assemblée doit s'arrêter immédiatement, le Premier ministre doit venir s'expliquer devant la représentation nationale.
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Christian Jacob, trois figures de trois partis d'opposition très remontés pendant l'affaire Benalla au mois de juillet. Depuis, les vacances sont passées par là. Ce matin, Emmanuel Macron et ses ministres faisaient leur rentrée. Mais cette semaine, c'est aussi la reprise pour les Verts, les Insoumis, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et le Parti Socialiste. Après l'affaire Benalla, l'an 2 du quinquennat verra-t-il le réveil des oppositions ? Tant que droite et gauche resteront dispersées, comment s'opposer à Emmanuel Macron ? Ce n'est pas un téléphone sonne sur l'affaire Benalla, c'est un téléphone sonne sur les oppositions. On en débat au 01 45 24 7000. On attend vos messages sur franceinter.fr et sur Twitter, mot-clé Telson.
Frédéric Mettezo, le téléphone sonne.
19h19, premier appel. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, bienvenue sur Inter.
Je suis un fidèle auditeur d'Inter et je voudrais dire que France Inter est une radio de très grande qualité.
Et on vous remercie de nous écouter alors. Merci Alain.
Simplement, je voulais simplement dire, parce que ça fait effectivement plusieurs jours qu'on entend la rentrée, l'affaire Benalla, et ce que je voulais dire, c'est que pour quelqu'un comme moi, un vulgum pécus qui n'a aucune responsabilité, citoyen lambda, cette affaire, ça a été ridicule, la façon dont l'opposition s'est jetée dessus et essayé d'en monter la mayonnaise, de faire une affaire d'État. Pour nous, les gens du commun, ce qui nous importe, c'est pas l'affaire Benalla, c'est est-ce que la croissance va tomber ou pas, est-ce que le chômage va être réduit ou pas, est-ce que le dossier des retraites, comment est-ce que ça va être mené, ça c'est très important. L'affaire Benalla, pour beaucoup de gens, en tout cas autour de moi, les gens disaient, mais c'est rien du tout, bon, ça a été maltraité, c'est malheureux, mais c'est pas là-dessus que, entre guillemets, le peuple attend les gouvernants. C'est
bien,
sur l'économie, sur le
social,
le pouvoir d'achat et le social. Voilà.
On vous remercie de cette question qui est plus une remarque. Alain, vous étiez en direct au Standard. Pour vous répondre, Céline Brac, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale de l'Institut de sondage Odoxa. Bruno Cotrez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur au Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po. Le CVPOF, précisons tout de même que pour l'instant, au 01 45 24 7000, 90% des appels concernent l'affaire Benalla. Alors, on ne va pas débattre de cette affaire, mais de la façon dont les oppositions se sont opposées. Jusque-là, Bruno Cotrez, elles n'allaient pas si bien que ça, les oppositions, depuis mai-juin 2017. On a quand même vu, en juillet dernier, un regain de forme à l'Assemblée nationale, de la droite et de la gauche.
Bien sûr, parce que Alain a souligné que pour lui, ça n'était pas une affaire d'État. Sans aucun doute qu'une partie des Français considère que ça n'est pas une affaire d'État. Mais néanmoins, je voudrais rappeler qu'au cœur de l'élection présidentielle de 2017, il y avait la question de restaurer la confiance politique. La première mesure prise par Emmanuel Macron, c'est d'abord et avant tout, lorsqu'il est élu, d'enclencher la loi de restauration de la confiance politique. Et c'est bien la raison pour laquelle les oppositions ont saisi l'affaire Benalla, parce qu'il fallait à un moment donné trouver un point de faille chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a porté tellement haut la question du renouvellement de la vie politique, de la restauration de la confiance, que ça ne pouvait plus durer comme ça, qu'il était le dernier rempart avant un collapse démocratique français, un effondrement démocratique français. Et donc c'est la raison pour laquelle l'affaire a pris cette ampleur, bien sûr, et l'écho qu'elle a eu dans les oppositions, parce que les oppositions jouent leur rôle en démocratie, qui est évidemment de rechercher la faille, de rechercher le point faible.
Céline Brac, directrice générale de l'Institut Odoxa, est-ce que à partir du moment où cette affaire Benalla éclate, ça a un impact dans l'opinion des Français quand ils regardent leurs oppositions, quand ils regardent Wauquiez, Mélenchon, Marine Le Pen, Olivier Faure, pour ne citer que les principaux partis?
Alors, souvent, en réalité, on confond deux choses. Le fait qu'une affaire intéresse la population, que les gens ont envie d'en parler, souvent en mal, parce que ça leur permet de critiquer leur politique, et l'impact que ça peut avoir sur leur opinion. Et en général, enfin c'est même à chaque fois, une affaire en tant que telle n'a pas d'impact profond sur l'opinion que les Français peuvent avoir sur telle ou telle politique. Donc ils n'attendent pas de leurs oppositions qu'ils fassent comme eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent du matin au soir à parler de cette affaire-là. Parce que les Français attendent de leurs oppositions qu'ils puissent être une alternative crédible au pouvoir en place.
Comme nous le disait
sont,
Alain.
Ouais, voilà, s'ils sont mécontents. Exactement. Et ce que dit Alain est très révélateur. Enfin, et il est très représentatif finalement, Alain, de l'opinion française. C'est que les Français demandent à leurs gouvernants et à leurs oppositions d'être crédibles sur les sujets important. Ça ne signifie pas que les oppositions ne doivent oublier l'affaire Benalla, parce que évidemment stratégiquement, ce que disait Bruno, c'est que ça permet
ils vont remuer le couteau dans la plaie.
Voilà, de remuer le couteau dans la plaie, de pouvoir dire il vous avait dit que Emmanuel Macron qu'il incarnait le renouveau. Or vous voyez bien qu'il n'incarne pas le renouveau puisque c'est de la vieille politique. Et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà observé dans les enquêtes d'opinion, cette qualité qui était attribuée à Emmanuel Macron. Incarner le renouveau était déjà en train de fortement s'effriter même l'affaire Benalla. Donc ça va dans ce sens-là. Donc ça peut être utile pour les oppositions. Si
mais
on
ça
est
n'a
très
pas
cynique.
Fait bondir, ça n'a pas fait bondir non. Les cotes de popularité des Mélenchon, Wauquiez, etc.
Alors de toute façon, il faut honnêtement les sondages de l'été, il y en a pas beaucoup oui. Et il vaut mieux pas qu'il y en ait trop parce que c'est une période un peu particulière. On va voir ce que ça donne. Je serais très étonnée que ce soit le cas. Pour le moment, ce qu'on voyait juste avant l'été, c'est qu'on avait beau avoir un Emmanuel Macron qui continuait à baisser, à perdre des points. Pour autant, les oppositions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, n'engrangeaient pas. En tout cas, tous les opposants officiels. C'est-à-dire, vous aviez par exemple à droite un Nicolas Sarkozy qui engrangeait des points. Mais si vous voulez, c'est des points...
Il n'est pas du tout
dans le jeu politique en ce moment. Voilà.
La rentrée politique, comment s'opposer à Emmanuel Macron, c'est le thème du Téléphone Sonne ce soir, 19h25, 01 45 24 7000. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Alexandre de Paris 14.
Soyez le bienvenu.
Merci. Je vais en faire bondir plus d'un peut-être, mais c'est pas fait exprès. Je crois qu'avant de se poser la question comment s'opposer à Emmanuel Macron, ce qu'il faut savoir c'est quel est le chef de la véritable opposition. La véritable opposition, c'est l'opposition qui n'a pas gouverné depuis 40-50 ans. C'est-à-dire, c'est pas le Parti Socialiste, c'est pas le Parti Communiste, c'est pas les Républicains, c'est pas la France Insoumise, c'est le Parti du Rassemblement National, d'après...
Le successeur du Front National, donc, Marine Le Pen.
Non.
Bah, le Rassemblement National, c'est le nouveau nom du Front National,
oui.
Alain. Alexandre, pardon.
Oui.
Et présidé par une certaine Marine Le Pen.
C'est ça. D'après ma logique, ce serait le parti du Rassemblement National qui mériterait d'être appelé opposition, la vraie opposition.
D'accord, et ben on vous remercie de votre... On va laisser répondre nos invités. On va laisser répondre nos invités. Bonne question que pose Alexandre. Bruno Cotresse, qu'est-ce que c'est la première opposition? Est-ce que c'est Marine Le Pen parce qu'elle a été qualifiée au second tour de la présidentielle? Est-ce que c'est LR, la droite, parce que c'est elle qui a le plus de députés d'opposition? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a une force de conviction, une force d'éloquence et qu'il a su construire une force nouvelle et finalement avec 17 députés, il arrive à faire beaucoup de choses? Qu'est-ce que c'est la première opposition du point
très
de vue
bonne
politique?
Question. Très bonne question, ça ferait un magnifique exposé pour les étudiants de Sciences Po. Très bonne question, effectivement. On voit à travers vos réponses déjà qu'il y a une pluralité d'aspects. L'opposition, lorsqu'on est dans les suites d'une élection, on va dire, telle qu'on en avait connue jusqu'à présent sous la Ve République, ça se réglait assez vite. C'était la coalition qui pensait pouvoir remporter les prochaines élections et qui avait le plus grand nombre de députés, voire le plus grand nombre de militants à opposer au pouvoir en place. Là, on est vraiment dans une situation qui est complètement différente parce qu'on a paysage politique qui a beaucoup éclaté et surtout des forces politiques qui ont incarné, qui ont animé la vie politique française pendant de très nombreuses décennies. Les Républicains qui sont les successeurs de l'UMP et puis de la droite néo-gaulliste. Et puis le Parti Socialiste qui a été au pouvoir pendant de très nombreuses années au cours des 30-40 dernières années. Eh bien on a ces deux forces politiques qui ont animé la vie politique française et qui ont reçu un sacré coup leurs candidats n'ont pas été qualifiés pour le deuxième tour de la présidentielle. Le candidat socialiste Benoît Hamon a fait un score inférieur à 10%,
de l'ordre de 6,5.
Voilà, 6,5. Et par ailleurs, ces deux partis ont subi, après l'élection, une hémorragie importante de militants, parfois de cadres,
et en ce qui concerne
les Républicains, trois de leurs brillants représentants sont rentrés au gouvernement, dont l'un est le chef du gouvernement, Édouard Philippe. Donc on a un paysage politique qui, de ce point de vue-là, est très particulier à l'issue des élections de 2017, ce qui explique qu'il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir qui est le principal opposant. Effectivement, l'animateur de la contestation, Jean-Luc Mélenchon, la présence à l'Assemblée nationale, les Républicains, la présence au deuxième tour, pratiquement 11 millions de voix pour Marine Le Pen au deuxième tour, c'est quand même très important. Donc ça fait une pluralité d'opposition. Et cette pluralité d'opposition, pour le moment, elle bénéficie plutôt à Emmanuel Macron, qui au fond, lui, a le loisir de choisir à tour de rôle tel ou tel comme partenaire de jeu, comme opposant. Il n'y a pas pour le moment, en France, de reformation d'une coalition qui pourrait prétendre former un bloc voulant gagner les prochaines élections. Ça va être une des questions essentielles pour la France insoumise.
Céline Braque, quand vous regardez depuis mai 2017 les courbes de popularité, les courbes de sondage, ceux que vous effectuez, puis peut-être un peu ceux des confrères, qui est l'opposant le plus populaire ou le moins impopulaire à Emmanuel Macron ?
C'est vrai que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, en termes de ce qu'on appelle les proximités partisanes, Marine Le Pen est encore celle qui rassemble le plus de Français derrière elle, tout en étant très fortement rejeté par une grande majorité de la population.
On adore ou on déteste.
Et voilà, à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui va le plus... dans lequel les Français de gauche vont le plus se reconnaître. Mais lui aussi est sur une position qui a pour effet de l'éloigner de la plupart des Français. Donc, ce sont plutôt les extrêmes qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron... sont, disons, dans la situation la moins inconfortable. Cette situation, elle pourrait perdurer, parce que quand on voit les sujets qui sont à l'ordre du jour des futurs
de
projets de loi, etc.,
oui.
La rentrée, quand on voit le sujet retraite,
de Bruno Le Maire.
Voilà, exactement, le système de santé aussi. Ce sont des sujets sur lesquels les partis, avec des fonctions un peu plus tribuniciennes, d'extrême, seront plus à l'aise, parce qu'ils pourront proposer des alternatives très clairement en opposition à celle d'Emmanuel Macron, là où les partis traditionnels qui ont pris effectivement un bon petit coup sur la tête auront plus de mal à émerger. Oui.
Vous parlez, Céline Braque, des extrêmes. Deux pages très intéressantes dans Le Monde aujourd'hui sur Jean-Luc Mélenchon et ses troupes qui font leur rentrée demain à Marseille. Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut se décoller de cette étiquette dite d'extrême. Il veut former des députés qui seraient prêts à gouverner. Beaucoup disent on est prêt à prendre le pouvoir. Est-ce qu'il y a un changement dans l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui serait moins tribunicien et plus façon François Mitterrand qui veut reconstruire un parti de gouvernement ?
Peut-être, mais c'est vrai que pour le moment, c'est d'ailleurs un des handicaps en termes d'opinion de Jean-Luc Mélenchon.
De perception par l'opinion.
Il a une personnalité, comment dire, c'était déjà un peu une personnalité à éclipse. C'est-à-dire qu'il va être très présent à un moment, puis beaucoup moins présent dans les médias. Il semblerait que, même s'il censure certains médias, ça peut durer un certain temps, n'est-ce pas ?
C'est vrai qu'on l'attend sur France Inter.
Il a cette personnalité très bouillonnante, jugée très agressive par les Français. Et de temps en temps, on voit que Jean-Luc Mélenchon se pose, se calme. Et que c'est suivi dans l'opinion par un regain, ou en tout cas par une meilleure popularité, une plus forte popularité de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne me prononcerai pas à ce stade sur l'attitude actuelle de Jean-Luc Mélenchon. Il faut voir si ça va être pérenne.
Bruno Cotterêts, oui, avant de retourner au Standard, pour entendre Antoine.
Oui, alors je trouve qu'effectivement, vous avez bien posé les termes de l'équation pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a toujours des propos extrêmement respectueux, affectueux, parfois presque déférent pour François Mitterrand. C'est l'un de ses icônes.
Son modèle.
Son modèle. Et alors, on a une énigme qui est, mais si c'est son modèle, pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'essaye pas, au fond, de se positionner comme une sorte de nouveau François Mitterrand, c'est-à-dire celui qui va arriver à faire s'entendre les différentes familles de la gauche. Rappelons-nous quand même l'histoire de l'union de la gauche. Dans ce pays, ça n'a pas été toujours très simple.
Vous voulez dire que Jean-Luc Mélenchon devrait tendre ensemble la main au Parti Socialiste et dire
Mais les socialistes d'aujourd'hui ne sont pas les socialistes des années 1960, 70,
et
80,
encore moins les
80,
communistes
voilà.
des années 70.
Donc il y a une sorte de paradoxe, un peu de la situation. Il s'en est plutôt bien tiré de la présidentielle. Il est quatrième, pratiquement troisième ex aequo avec François Fillon de la présidentielle. Il a augmenté, la France Insoumise a augmenté très significativement son nombre de députés, même si c'est à un nombre de 17. Et tout ça n'a pas pour autant réglé la question stratégique, qui est la seule question importante pour remporter une élection majeure, qui est quel est le bloc politique, idéologique, sociologique qui permet d'obtenir le gain du siège de président de la République.
On va retourner au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir. En fait, moi je voulais vous parler du fait que l'exercice de l'opposition, il était vachement entravé par les nouvelles réformes, notamment avec la limite du temps de parole des parlementaires, qui a été réduit à 2 minutes sur les questions au gouvernement, et aussi en prenant l'exemple de la commission d'enquête parlementaire de Benalla, c'est-à-dire qu'on a convoqué beaucoup de monde, tout le monde s'est pas présenté, et il y avait beaucoup de questions où il y avait où les interlocuteurs manquaient d'informations.
Notamment à l'Assemblée. Notamment à l'Assemblée. Oui, visiblement donc, on a.
Oui, où je trouvais qu'il manquait beaucoup d'informations. Gérard Collomb, qui manquait beaucoup d'informations, où tous les intervenants qu'on avait convoqués, ils sont pas forcément présentés.
D'accord, et Antoine, on va rester sur votre, on va rester sur le, oui, on va rester sur le premier aspect de votre question. Bruno Cotrès, politologue à Sciences Po. C'est vrai que c'est difficile d'exister quand on est dans l'opposition parlementaire sous la Ve République.
Oui, c'est très difficile et on voit que l'on a fait des progrès. Les différentes réformes institutionnelles ont marqué des progrès. Il y a eu une réforme de 2008, par exemple, au début du mandat de Nicolas Sarkozy, qui a réalisé un certain nombre de progrès sur les droits de l'opposition également. Donc il y a eu des amendements à la Ve République qui ont été apportés de ce point de vue-là. Et pourtant, le cadre un peu rigide de la Ve République, avec son fait majoritaire, sa dominance présidentielle, contraint quelque part quand même à l'exercice démocratique qui est la prise en compte du point de vue de l'opposition. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais ça n'est pas Emmanuel Macron, tous les présidents de la République ont cédé, je dirais, au même discours. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on voit constamment revenir ce discours qui est « les Français nous ont donné comme mission de, nous avons été élus pour ». Alors bien sûr, nul ne pourrait contester que Emmanuel Macron a obtenu une très large majorité au second tour de l'élection présidentielle. Mais c'est une élection à deux tours, comme si deux élections cohabitaient dans une seule élection. Le premier tour de la présidentielle a quand même eu lieu.
Et avec le fait majoritaire qui donne au Front National 9 élus, c'est-à-dire pas de groupe, alors que le Front National était présent au second tour.
Il va y avoir des réformes. Avec une dose de proportionnelle. Justement, qui entendent apporter des réponses, ou certaines réponses en tout cas, à cette problématique. Je voudrais rappeler ici que la problématique de la représentation démocratique est tout à fait essentielle. L'Assemblée nationale, élue en 2017, a été élue avec une abstention gigantesque. Et c'est l'Assemblée nationale qui, avec celle de 1993, a le plus clairement déformé le passage des votes au siège.
Céline Braque.
Oui, Emmanuel Macron pourra en plus, si tel est le cas, et pour le moment, la campagne des européennes n'a pas été lancée, etc. Il est très tôt pour se prononcer sur le sujet. Quand on voit les premières intentions de vote qui ont été faites pour les élections européennes, on voit que finalement, La République En Marche pourrait tout à fait pourrait se retrouver en position assez confortable. Et donner du coup une vision finalement même très biaisée de la situation politique en France, avec des oppositions qui sont très fortes et un soutien assez faible de l'opinion aux réformes,
à l'action du
président de la République. Mais cette élection européenne et cette division des oppositions, donc le format des élections européennes en un seul tour, voilà, scrutin national, pourrait donner une vision déformée sur laquelle le président et le gouvernement pourraient s'appuyer.
Le téléphone sonne. Frédéric Mettezo sur France Inter.
19h37, bonsoir Hubert, soyez le bienvenu.
Oh, bonsoir.
Nous vous écoutons, vous êtes en direct à l'antenne.
Oui, merci. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Je trouve que l'opposition, enfin chacun des partis d'opposition, manque de clarté politique dans l'annonce de ses objectifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de rétablir un peu de solidarité intergénérationnelle ou de solidarité entre les différentes couches de population. On est en train de parler de mesurettes, de petites choses techniques.
Par vous voulez dire qu'il n'y a pas de vrai projet
Oui.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de vrai projet porté par les oppositions, Hubert?
Voilà, tout à fait. De même que je considère que Macron a pas fait un programme politique, mais un programme de petites mesures mises bout à bout, qui n'a jamais explicité dans ses objectifs.
Très bien.
La réforme des retraites, par exemple, l'objectif sous-jacent qu'on sent bien, c'est de passer en retraite par capitalisation. Mais c'est pas quelque chose d'explicite.
D'accord, Hubert. On a bien saisi votre message qui prolonge un petit peu cette une du Parisien au cœur de l'été le 5 août 2018, 5 août dernier donc. Le Parisien écrivait « Opposition, toujours rien ou presque sur le front des idées ». Alors tout est dans le presque, mais Bruno Cotterêts, est-ce que vous voyez dans les propos tenus par les opposants à Emmanuel Macron des projets, des idées et pas que peut-être quelques mesures comme semble nous le dire Hubert. Est-ce qu'il y a un travail de fond qui a été entamé par la droite, les socialistes, le Rassemblement national et les insoumis?
Alors ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on parle avec des élus de ces formations politiques, eux disent qu'ils font ce travail de fond, qu'à l'Assemblée nationale, les Républicains ne manquent jamais une occasion de montrer que sur les questions de sécurité intérieure, etc., ils ont fait beaucoup de propositions qui sont très présents à l'Assemblée nationale. Les députés de la France insoumise font régulièrement des propositions également.
Ils travaillent.
Et pourtant, mais bien sûr, et pourtant, au niveau de l'opinion, on a le sentiment d'un tableau extrêmement confus, qu'on ne voit pas pour le moment de programme. Alors, je pense que c'est lié au fait que l'élection présidentielle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Le temps n'a pas encore suffisamment passé pour qu'un certain nombre de formations politiques puissent dire aux Français, eh bien, vous voyez au fond, le programme que nous avions présenté à la présidentielle allait dans le bon sens. On avait bien raison de s'opposer à Emmanuel Macron. Je pense en particulier pour le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a un vrai problème tout simplement de temporalité. Il était encore au pouvoir il y a un an et demi. Donc c'est très difficile pour le Parti Socialiste d'enclencher un discours qui propose une alternative à Emmanuel Macron. Parce qu'on peut facilement renvoyer le PS en lui disant mais pourquoi vous ne l'avez pas fait alors? Donc il y a un problème de temps. Le problème de temps est une donnée essentielle de l'action politique. On va avoir cette question du temps qui va revenir très rapidement, puisque des élections arrivent, qui sont les élections européennes et les élections municipales de 2020.
Dont on parlait avec Céline Braque à l'instant.
Dont on dit très souvent qu'elles sont comme des sortes d'élections intermédiaires, des élections de mi-mandat où des électeurs vont pouvoir faire passer des messages.
Tiens, question d'une auditrice sur franceinter.fr. Qu'en est-il du Parti communiste? C'est vrai qu'il y a autant de députés communistes que de députés insoumis. Et pourtant, on parle beaucoup moins du Parti communiste. Céline Braque, oui, vous l'avez encore dans vos radars, le PC?
Oui, bah par exemple, là j'ai sous les yeux la question qu'on pose systématiquement dans tous les sondages politiques qui sont faits, qui est la question de proximité partisane. Évidemment, le Parti communiste est toujours proposé aux Français. On leur demande de quel parti vous sentez le plus proche ou le moins éloigné. Et les gens répondent sous les yeux la liste. Le Parti communiste, aujourd'hui, à cette question, on a entre 1 et 1,5% des Français qui se sentent proches du Parti communiste. Aujourd'hui, la population qui serait proche des idées du Parti communiste a tendance à se mettre beaucoup plus sur la France insoumise. Les subtilités, les différences entre les deux formations ne sont plus perçues par les Français et par les Français de gauche.
Question de Ludovic qui nous a laissé le message suivant au standard. Il n'y a plus vraiment d'opposition car il n'y a plus de leader. Est-ce qu'on voit des leaders émerger? On a l'impression qu'il y a un Jean-Luc Mélenchon, il y a une Marine Le Pen, il y a Laurent Wauquiez, non? Céline Braque.
Oui, mais c'est vrai que ces leaders ont un déficit aux yeux des gens sur leur crédibilité d'opposant. Et leur crédibilité d'opposant, ça veut dire leur crédibilité d'alternative, l'alternative qui pourrait représenter si Emmanuel Macron n'était plus le président de la République. Aujourd'hui, quand on pose la question dans les sondages sur les différents leaders politiques en demandant est-ce qu'il ferait plutôt mieux, pareil ou moins bien qu'Emmanuel Macron, la majorité des gens répondent qu'il ferait moins bien. Donc c'est le vrai problème des leaders politiques. Et il y a des leaders politiques qui, pour le moment, ne sont absolument pas reconnus, qui n'ont pas réussi, pour le moment en tout cas, à se faire leur place. Et je pense évidemment à Olivier Faure.
Premier secrétaire du Parti Socialiste.
Aujourd'hui, ce n'est pas que les socialistes ou les sympathisants de gauche auraient une mauvaise image d'Olivier Faure. C'est que pour le moment, ils éprouvent de l'indifférence à son égard. Les deux tiers des sympathisants socialistes nous disent simplement qu'ils n'ont rien de spécial à dire à propos d'Olivier Faure.
Donc c'est plus un problème Olivier Faure qu'un problème Parti Socialiste ?
Non, il y a un vrai problème. Alors, le problème du Parti Socialiste, c'est quand même, ils ne se sont pas remis du quinquennat de François Hollande, de la défaite à la présidentielle, et donc ils partent avec ce lourd handicap. Après, le Parti Socialiste, dans son histoire, a souvent failli disparaître, et finalement, la renaissance a eu lieu. Mais pour le moment, ils sont... comment rapidement, c'est exactement ce que disait Bruno, comment rapidement ressurgir dans le débat, alors que... ils ont une base qui est à peu près la même que la France Insoumise, mais avec, si vous voulez, beaucoup moins de soutien du leader de ce parti. Ça paraît extrêmement compliqué.
Bruno Cotterêts, la question du leader, c'est toujours paradoxal parce que l'opposition dit « Mon Dieu, le président de la République, c'est la Ve République, il est autoritaire, il a tous les pouvoirs. » Et on se rend bien compte que sans leader clairement identifié, les oppositions ont du mal.
Ce qui est très clair, effectivement, c'est qu'il y a un effet de comparaison déjà aujourd'hui qui est lié tout simplement à l'âge, au parcours, au style d'Emmanuel Macron. Les Français ont choisi un président de la République ayant un profil tout à fait atypique par rapport aux autres présidents de la Ve République, le plus jeune d'entre eux. Un parcours, il avait créé un mouvement politique un an avant d'être élu président de la République, et un style personnel qui lui aussi est en fort contraste avec plusieurs de ses prédécesseurs. Et donc l'effet de contraste par rapport aux leaders qui sont établis, aux leaders que les Français connaissent bien, est sans aucun doute quelque chose de difficile pour eux. On voit bien que dans le leadership d'Emmanuel Macron, il y a une dimension qui est assez charismatique, même si on peut considérer qu'une partie de ce charisme est bien entendu une construction. Emmanuel Macron y consacre, je pense, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est une sorte un peu de construction un peu iconique d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'en face, il y a un véritable challenge à relever qui est de faire sortir des leaders qui peuvent combattre Emmanuel Macron dans la prochaine élection présidentielle.
Et qui ne sont pas trop contestés par leur base.
Pas trop contestés par leur base,
bien sûr. Parce que Laurent Wauquiez l'est, par exemple, fortement.
Oui, parce que Laurent Wauquiez, c'est pas non plus un vieillard. Il a, je crois, un ou deux ans de plus qu'Emmanuel Macron.
Deux, je crois.
Voilà. Olivier Faure, c'est quelqu'un de relativement jeune également. Donc, les oppositions ont intérêt à chercher un... quelqu'un qui ressemble à Macron ou à miser sur toute autre chose. Bruno Cotterêts, puis Céline Braque.
Je pense qu'indépendamment de qui s'y collera, qui aura le bon profil au moment opportun, il est assez essentiel que les oppositions donnent le sentiment qu'elles s'occupent de cette question de renouvellement. Je ne dis pas forcément de remplacer leur leader, mais que leur leader montre qu'il y a une génération qui monte autour d'eux. On voit par exemple du côté de la France Insoumise, il y a toute une génération de gens qui sont plus jeunes que Jean-Luc Mélenchon, qui sont très fortement connotés et très fortement connus dans l'espace médiatique aujourd'hui. Du côté du Parti Socialiste, c'est plus compliqué parce que une génération relativement jeune de quinquagénaires, quinquagénaires socialistes a été décimée par le dégagisme de 2017, par les élections législatives.
Alors qu'à droite, il y a des trentenaires.
Voilà. Donc,
il y en aura un demain d'ailleurs à 7h50 chez Éric Delvaux.
Les différentes oppositions ne sont pas exactement sur le même pied d'égalité de ce point de vue-là.
Oui. 19h46, 01 45 24 7000, nous accueillons André.
Oui, bonsoir.
Bonsoir André.
Eh bien, simplement trois petites choses. D'abord, l'affaire Benalla, ça n'a aucun intérêt. C'est simplement un petit collaborateur du chef de l'État qui a sans doute eu une crise d'ego, qui a dépensé peut-être un peu plus d'argent qu'il ne l'aurait dû. Qui
voilà pour le petit 1, donc.
Qu'il l'était, mais c'est pas la peine de faire tellement de ramdam. Et je crois que la droite comme la gauche s'honorerait à ne pas faire de ramdam sur ça. On n'est pas dans une affaire Boulin ou Gros Souvre ou Prince de Breuil ou Baron Empin. On n'est pas du tout dans des affaires de ce genre. C'est stupide de faire du ramdam. Et je suis certain que si vous prenez 10 personnes dans la rue au pif, 9 ne savent même plus qui est Benalla.
Alors, ça, petit 2, André.
Petit 2, je crois aussi que la droite comme la gauche gagnerait un renouvellement de tête, mais ça, ça a l'air très compliqué parce que quand on voit à quel point les grands partis institutionnels de gauche, de droite et d'extrême droite ont du mal à trouver une tête de liste pour les européennes, ça a l'air extrêmement compliqué, donc on ne peut pas forcément être crédible. Et surtout, troisième point, et c'est peut-être le plus important, quand, depuis le deuxième septennat Mitterrand, mais ça a été vrai sous Chirac, sous Sarko et sous Hollande, on promet beaucoup de choses et on tient le quart, le cinquième, voire le dixième seulement de ce qu'on promet, on n'est pas forcément crédible parce que la réplique à ces hommes et à ces femmes politiques, c'est dire mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous y étiez? Vous avez bien profité du pouvoir pour vous, mais dans le fond, vous n'avez rien fait. Et je terminerai par une toute dernière observation.
Ah, il y a un petit 4 alors.
Il y a un fâcheux esprit de corps qui règne en haut, parce que quand on voit que ce soit quelqu'un de gauche ou de droite qui fait vraiment une grosse boulette, eh bien on l'oublie. Un exemple tout bête, il y a un an et demi, Madame Lagarde, ancienne ministre sous Chirac et sous Sarkozy, et la Cour de justice de la République constate qu'il manque 406 millions et c'est elle qui les a égarés. Aucune sanction, parce qu'il fallait que Madame Lagarde soit réélue à la tête du FMI. Eh bien, si vous payez pas votre PV pour excès de vitesse, 3 mois après, il y a un huissier qui vient toquer à la porte, et c'est pas pour 406 millions, mais c'est pour 100 ou 200 euros.
Merci pour ce plan. En 4 points, André, avec intro et conclusion comprise. Bruno Cotterêts, on va retenir de l'intervention d'André. Bah, le besoin de nouvelles têtes, c'est ce que vous disiez, et il parle de la difficulté à trouver des têtes de liste pour les européennes. C'est toujours un peu la quadrature du cercle. Soit on met quelqu'un de connu et de bien identifié, mais c'est pas neuf. Soit on met quelqu'un de nouveau et c'est pas connu et identifié.
Oui, puis par ailleurs, les élections européennes, dans leur histoire, ont fait de nombreuses victimes sur leur chemin. Rappelons-nous Michel Rocard 1994, Nicolas Sarkozy 1999, même si après il s'en est très bien remis, bien sûr. Il y a eu de nombreux plantages, on va dire, sur des têtes de liste, de personnalités connues. C'est une élection qui, là, en plus, déroule à nouveau avec une circonscription unique nationale, donc très visible. Le résultat de chaque liste sera extrêmement visible et pourrait, pour le cas de personnalités qui n'auraient pas les résultats qu'elles escomptent, peut torpiller un peu leur carrière politique. Donc c'est un jeu qui est toujours risqué. Puis par ailleurs, la question de l'Europe, fondamentalement, est une question qui introduit plus que des nuances dans certaines familles politiques. Donc trouver la personnalité d'équilibre, on le voit très très bien dans le cas des Républicains.
À droite notamment,
voilà.
Oui.
Trouver la personnalité qui arrive à la fois à incarner la sensibilité néo-gaulliste, qui est que le contrôle des frontières nationales, c'est quand même pas si mal que ça, mais en même temps qui incarne toute la dynamique favorable à l'Europe, de la droite en France depuis 20 ou 30 ans, c'est pas évident de trouver le point d'équilibre.
Céline Braque, on parlait tout à l'heure des toutes premières intentions de vote pour les élections européennes. Selon vous, est-ce que les oppositions vont pouvoir repartir en misant fort sur les européennes ou plus fort sur les municipales qui sont des élections plus proches? On peut rappeler, alors comparaison n'est pas raison, mais que par exemple le Parti Socialiste, avant de gagner l'élection de 1981, avait très fort marché aux municipales 4 ans avant. Donc est-ce que les oppositions ont intérêt à miser sur le scrutin européen ou sur les scrutins locaux ou les deux?
Ils peuvent pas faire une croix non plus sur les élections européennes, d'autant que ça enverra quand même une image du parti politique en question qu'ils continueront ensuite à véhiculer, et notamment même au moment des municipales. Par exemple, vous parliez du renouvellement, et pour chez LR, j'entendais que les noms du moment, c'était Morano, Dati, Hortefeux.
Jean Leonetti.
Voilà. C'est certain que sur cette élection, pour laquelle, pour le moment, le parti, pour donner un exemple, mais LR, mais pas seulement LR, le Parti Socialiste également, etc., sont plutôt mal partis, il faudrait pouvoir, en tout cas, se dire, on a à la tête de cette liste européenne une personnalité, pourquoi pas nouvelle, mais qui incarne aussi une ligne assez, qui fasse quand même un peu consensus au sein de la partie politique.
Parti. D'ailleurs, on peut citer que, pour l'instant, le Parti communiste a désigné son tête de file Yann Brossa, qui est un jeune élu parisien. Les Insoumis ont désigné Manuel Bompard, qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon, qui est encore assez inconnu du grand public. Là, il joue la carte du renouvellement. Mais revenons sur les...
Ou Charles Girard, non, c'est
en... C'est un tandem, mais ça sera choisi entre deux. Ouais. Exact. Mais en tout cas, ce sont des nouveaux visages. Oui. Revenons sur la question des élections municipales. Oui. Les élections municipales sont importantes pour repartir à la conquête du pouvoir ou pour aller à la conquête du pouvoir?
Elles sont fondamentales parce que Les élections municipales donnent un bon baromètre, au fond, de ce qui se passe à un niveau infranational. Le capital que représentent les maires, les conseils municipaux, pour les partis politiques, est un capital extrêmement précieux. C'est un capital qui permet d'être ancré dans les territoires, qui permet de connecter avec les électeurs, avec les groupes d'électeurs, avec la société civile. Donc c'est un capital politique extrêmement important. Et n'oublions jamais que pour les partis politiques, les organisations partisanes et politiques, les collectivités locales, les mairies notamment, sont aussi un réservoir pour avoir des personnalités,
des collaborateurs.
Donc c'est un signe de vitalité essentiel pour une organisation politique. Et du point de vue de l'interprétation que nous en ferons tous, sans aucun doute, nous tiendrons davantage compte des élections municipales que des élections européennes, compte tenu de l'abstention possible aux élections européennes et compte tenu du fait que le message envoyé au moment des élections européennes n'est jamais un message qui est univoque. Il y a une partie des électeurs qui votent sur les questions européennes, mais beaucoup d'électeurs votent aussi sur les considérations nationales, émettant un vote de jugement sur le gouvernement, mais qui est souvent envoyer un message en disant, ben voilà, si vous continuez, la prochaine fois, ça sera à balles réelles sur les élections municipales.
On tire à blanc aux européennes et on tire à balles réelles aux municipales.
Voilà, tout à fait.
Céline Brac, parmi les messages que je vois passer sur l'application franceinter.fr ou ceux qu'on a entendus, il y a beaucoup de défiance et il y a ces auditeurs qui nous disent, ah ben, on nous a trompé une fois, on nous a trompé deux fois, soit on votera extrême, soit on va s'abstenir. Est-ce que les oppositions n'auraient pas intérêt à aller chercher aussi d'abord ces abstentions qui sont de plus en plus nombreux?
Oui, et des Français qui, pour l'essentiel, enfin pour la majorité d'entre eux, majorité relative, considèrent aujourd'hui qu'ils ne se sentent proches. Je parlais tout à l'heure des proximités partisanes. Les Français qui sont les plus nombreux, c'est entre 35 et 40% des Français qui ne se reconnaissent dans aucun parti politique.
Et donc potentiellement abstentionnistes.
Et donc plus facilement, évidemment,
abstentionnistes. C'est la question d'Anne par mail. Et l'abstention et le vote blanc, quelle en sera l'ampleur aux élections européennes? Vous nous dites, Céline Brac, qu'il y a à peu près 35 à 40% des électeurs qui ne se sentent pas affiliés.
Exactement. Et qui, du coup, plus difficilement vont se motiver pour des élections, et en plus les élections européennes, qui sont des élections traditionnellement, qui mobilisent peu les Français. Là où un Français qui n'aurait pas justement d'affinité électorale ou après d'un parti politique pourrait plus facilement voter à des élections municipales, parce qu'on considère qu'après tout un maire,
il y a une proximité,
son étiquette a moins d'importance, etc. Donc oui, il faut qu'il puisse aller chercher ces électeurs-là. C'est un enjeu essentiel pour les partis politiques, qui est d'autant plus difficile que, pour le moment, ils ont une difficulté qui est peut-être la difficulté première, c'est de ne pas perdre non plus leur base électorale classique, évidente. On parlait tout à l'heure de Laurent Wauquiez. Actuellement, ce qui se passe chez LR, c'est que les Français qui disent qu'ils se sentent proches du parti Les Républicains, ont beaucoup d'affinités avec Emmanuel Macron et pour certains sont de plus en plus tentés par des propositions du Rassemblement National et par des personnalités, moins par Marine Le Pen en ce moment que par Marion Maréchal Le Pen. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu quand même, avant d'aller chercher les gens qui ne se sentent proches d'aucun parti, de garder ceux qui, jusque-là, se sentaient proches de votre parti politique.
Un mail d'Éric dans le Finistère. La morosité des oppositions est due à la perte de confiance dans les politiques. Comment remonter la pente et en combien de temps? Alors c'est un peu boule de cristal, Bruno Cotterêts, mais est-ce que vous, au CVPOF de Sciences Po, vous pouvez mesurer, vous pouvez quantifier cette défiance des Français envers les politiques?
Oh que oui, nous réalisons annuellement une enquête qui s'appelle le baromètre de la confiance politique, dont la prochaine vague sera publiée au mois de janvier, comme toutes les années. Nous mesurons depuis 2009 un tableau, je dirais, extrêmement sombre du rapport des Français et du jugement que les Français portent sur la classe politique, sur les politiciens en général, on va dire. Jugement extrêmement sombre, le pessimisme l'emporte, la défiance est à tous les niveaux. Seuls tirent leur épingle du jeu les élus locaux. Les institutions publiques, celles qui incarnent en particulier la protection et la proximité. Mais en dehors de ça, on voit un tableau qui est effectivement un tableau où la France est parmi les pays européens caractérisée par la plus forte défiance dans les politiques.
Donc si je résume ce que vous nous avez dit tous les deux, ce sera le mot de la fin pour chacun. Si on veut bien s'opposer, d'abord il faut une cohésion interne, ensuite il faut proposer et enfin il faut jouer prioritairement sur l'échelon de proximité. Ça pourrait être le petit manuel du bon opposant, Céline Braque.
Vous avez bien résumé les choses, je pense. Et oui, pouvoir, enfin, l'échelon de proximité est essentiel. Et il faut aussi peut-être donner l'image d'une personnalité sincère, c'est-à-dire que l'image qu'on renvoie corresponde l'image qu'on veut donner corresponde à l'image que les Français se font de vous.
Et pas faire du bullshit médiatique, voilà, comme dit Laurent Wauquiez lui-même devant ses étudiants.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une tentation qui peut être faite de faire du buzz et de faire beaucoup parler de soi, mais il faut aussi pouvoir renvoyer une image cohérente. Et ça peut être une difficulté de politique, en l'occurrence effectivement aussi pour Laurent Wauquiez, c'est-à-dire qu'à un moment, que la personnalité que les Français retrouvent en face d'eux dans le poste, ils aient bien l'impression qu'elle dit quelque chose qu'elle pense réellement.
Que le type dans le poste, c'est le type dans la vie.
Voilà, exactement. Et c'est un des problèmes justement qui explique la défiance envers les partis politiques et envers le personnel politique.
Bruno Cotteresse, le béaba du bon opposant, Emmanuel Macron.
C'est ça. C'est-à-dire, c'est l'empathie, la proximité. On voit que ce sont des qualités que l'électorat ne prête pas nécessairement en priorité à Emmanuel Macron. L'électorat qualifie Emmanuel Macron par son charisme, son image présidentielle, sa présence présidentielle, l'image qu'il renvoie de la France à l'étranger. Il a su parfaitement se couler dans ce moule du président de la Ve République. Par contre, l'image de proximité, nous l'avions mesurée tout au long de la campagne électorale avec la grande enquête que le Cevipof a réalisée sur un échantillon de plus de 20 000 électeurs. Et on voit qu'à la veille du premier tour, Emmanuel Macron est moins fort en proximité que Marine Le Pen. Marine Le Pen est davantage perçue comme quelqu'un
malgré ce mouvement
qui est proche,
soi-disant horizontal en marche à l'époque.
Oui, et il n'a cessé de perdre des points d'ailleurs dans la matière.
Et donc cette dimension, bien sûr, pour un leader d'opposition, de proximité, d'empathie, de sincérité, Céline a raison, la dimension de sincérité est une dimension qui est de plus en plus importante aux yeux des Français.
Merci à tous les deux, merci à Céline Braque, directrice générale de l'Institut Odoxa, merci à Bruno Cotteresse, politologue, chercheur au Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po, le Cevipof, merci à toute l'équipe du Téléphone Sonne, Caroline Baudry, Justine Bilret et Pierre de Certaines qui m'ont aidé à préparer cette émission, réalisation signée Céline Hilla avec Oman ce soir, Juliette Delpérou et Victoria Asper. À suivre sur France Inter, Affaires Sensibles. Fabrice Drouel nous parlera non pas de l'opposition, mais d'un ovni près de Paris en 1979 à Cergy-Pontoise, quoique parfois la politique peut être un peu ovniesque.